Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
Bonjour à toutes et à tous les explorateurs et bienvenue pour ce nouveau podcast. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tanguy Delecourt, serial entrepreneur au sein de la société Native. Il accompagne les marques nouvelles, qu'on appelle également DNVB ou D2C, à se développer. Dans ce podcast, nous revenons notamment sur l'évolution du marché de ces DNVB, dont les maîtres mots sont transparence et écoute du consommateur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Tanguy, comment vas-tu ?
Bonjour Audrey, super, merci et toi ?
Ça va super, merci. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour qu'on parle un peu de ce que tu fais dans la vie, et notamment qu'on parle des DNVB, du coup les Digital Native Vertical Brands, un terme qui revient énormément en ce moment. En préparant le podcast, j'ai pu voir dans ta bio LinkedIn que tu es serial entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire ce que c'est exactement ?
Yes, alors en fait, nous, avec mon associé Mathias Veil, on a créé en fait une entité qui s'appelle Native il y a à peu près un an et demi, qui est en fait une structure que je mettrais à la frontière entre une holding de groupe et un startup studio. Et donc à travers cette structure, en fait, on accompagne des marques direct to consumer ou DNVB dans des industries de biens de grande conso comme la beauté, le pet food, l'habitat d'intérieur. Et en fait, on a à peu près 1,5 million d'euros à déployer dans ce premier batch de marques, avec deux marques qui sont déjà live. La première, c'est Kipli, qui est en fait une marque autour de l'habitat naturel, avec comme premier produit un matelas en latex 100% naturel. Donc c'est une marque en fait qui a été lancée il y a un an et demi par Davide et Antoine, d'abord en Italie, et puis nous on est rentré dans la société quand ils voulaient s'étendre en France. Et donc, on a avec eux revu un petit peu la plateforme de marque, reposé un petit peu la marque et son positionnement. Et puis, on a lancé la marque en France il y a maintenant plus d'un an avec de super chiffres et un super succès. On fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et on a plein de super projets de développement qui arrivent avec soit online, soit offline, avec par exemple l'ouverture d'une belle boutique dans le Marais qui a été un petit peu repoussé à cause de la crise du coronavirus dans laquelle nous nous trouvons. Mais voilà, plein de beaux projets à venir. Le second projet qui est live, ça s'appelle Veto, V-E-E-T-O. C'est une marque en fait de compléments alimentaires 100% naturels pour chiens et chats. C'est une marque qu'on a lancée à la fin de l'année 2019 et qui connaît aussi une super croissance avec comme premier produit en fait un produit pour les chiens qui marche super bien et sur lequel on a des retours assez incroyables, qui est un produit qu'on a développé en fait pendant plus d'un an avec un veto et un très grand nutritionniste européen qui s'appelle le professeur Patrick Nguyen. Et voilà, et on a deux autres projets qui sont en cours de lancement. Un premier projet qui va être une marque de beauté avec une grosse influenceuse beauté, une des plus grosses influenceuses beauté de France. Et une marque pour l'alimentation premium pour les chats par abonnement en ligne. Voilà, qui seront des marques qui vont être lancées aussi dans les prochaines semaines, prochains mois, en fonction de la crise du coronavirus et si on arrive à finaliser la période de pré-lancement. Donc voilà, en fait, serial entrepreneur, ça veut dire qu'effectivement, on est soit à l'origine de la création, soit on accompagne pas mal de marques dans l'univers DNVB ou direct to consumer.
D'accord. Et au final, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ?
Je pense deux choses. Le premier, c'est que moi, en sortant de l'école, j'ai fait l'EDEC. J'ai rejoint un super entrepreneur qui s'appelle Marc Ménazé, qui avait à ce moment-là été au début de son aventure menlook.com, qui était un site de e-commerce pour hommes en ligne. Voilà, et j'ai été le bras droit de Marc Ménazé pendant 4 ans. Donc j'ai d'une part adoré l'expérience de Menlook, qui était une super start-up, qui s'est développée très vite, qui était une boîte e-commerce, donc on faisait du B2C et j'ai vraiment adoré ça. Et d'autre part, j'étais très proche de Marc Ménazé. Et c'est vrai que c'est un super entrepreneur qui a beaucoup de charisme et qui m'a vraiment donné, on va dire, l'envie et la fibre entrepreneuriale. Voilà. Et puis après, pourquoi est-ce que se spécialiser dans les marques ? Parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé parler, on va dire, à parler aux gens et développer des produits qui sont assez faciles à comprendre, en fait, et qu'on vend à la France entière, voire en Europe, voire dans le monde. Et puis, on y reviendra certainement, mais c'est des business models que je trouve assez sains, puisque souvent, et nous, c'est ce qu'on vise, on est rentable au moins sur le core business. Donc en fait, on sait où on va et ça, ça me plaît bien de savoir à peu près où on va et pas être dépendant de fonds de VC, etc. pour grandir. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît bien.
Donc au sein de Native, quelles sont tes fonctions, quelles sont tes missions au quotidien, qu'est-ce que tu gères, tu peux nous en dire un peu plus?
Alors en fait, les missions, elles dépendent un peu de la phase, on va dire, de développement des projets et des marques. Puisque tout d'abord, on a une phase où on doit les trouver, ces projets. Donc maintenant, c'est vrai qu'à part Keepli, qui existait déjà, maintenant, c'est plutôt nous qui créons les projets from scratch. Donc il faut d'abord les identifier, ces projets-là. Donc pour ça, on fait pas mal de veille, pas mal d'études de marché pour savoir sur quel marché il y a des projets intéressants à lancer, avec quelle offre, avec quel positionnement, à travers quel business model. Donc ça, c'est généralement quelque chose qui nous prend quand même pas mal de temps parce que on lance pas des marques tous les jours, donc on veut être sûr de lancer les bonnes et sur les bons secteurs. Une fois qu'on a identifié les marques, il faut les lancer. Donc ça, ce sont des périodes, on va dire, de pré-lancement. C'est des périodes qui nous prennent entre 6 et 18 mois en fonction des projets. Et là, y a plusieurs missions dans lesquelles je suis impliqué. Il y a tout d'abord sortir les produits. Donc pour ça, il faut trouver les bons fournisseurs qui vont les fabriquer, et puis toute la phase de R&D pour parvenir aux produits qu'on veut. Nous, on y reviendra plus tard, mais on croit beaucoup au fait qu'il faut des super produits pour que les marques fonctionnent, et donc ça, on ne lésine pas sur la quantité de temps nécessaire pour sortir des super produits. Et puis une fois qu'on a les produits, et même en parallèle, il faut tout construire, ce qu'on appelle chez nous la brand platform, qui est, on va dire, un socle super important pour nous dans lequel on va définir le positionnement de notre marque, le tone on voice, la DA, enfin voilà, tous les éléments qui vont faire qu'on est tous alignés sur ce qu'on pense de la marque, ce qu'on pense comme futur pour cette marque, les ambitions, les missions de cette marque. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette brand platform, on en découle, on va dire, tous les assets stratégiques dont on a besoin pour lancer la marque. Donc c'est la création du site, la création des comptes Facebook, Instagram, la création des premiers contenus clés pour faire du marketing intéressant, pour avoir des visuels cool sur le site, des parcours d'achat qui convertissent, voilà. Plus après, toute la partie, on va dire, plus opération admin légale, où pour créer une marque, il y a quand même besoin de trouver des bons logisticiens pour faire les shippings, et d'avoir un cadre d'association entre tous les gens du projet intéressant. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, pré-lancement. Et puis une fois qu'on lance les projets, là, je dirais qu'il y a deux phases. Il y a une première phase où on est très active, qui dure 6 à 12 mois, où là, on est honnêtement actif sur tous les sujets. On se répartit les rôles avec mon associé Mathias Veil et puis notre autre associé Romain Talédélian, où là, on va dire, du marketing jusqu'au service client, on va aider ou mettre nous-mêmes en place tous les process, les outils, pour que la boîte soit au maximum automatisée et puisse être ready pour scaler après quoi. Donc en fait, c'est une phase de test and learn où sur tous les sujets, on essaie de trouver les bons process à mettre en place. Et puis une fois qu'on les a trouvés, les mettre en place. Et ensuite, en temps 2, donc on va dire après 12 mois, nous, on a moins vocation à être opérationnel day to day dans les boîtes. Soit on trouve des associés qui vont prendre le lead sur les sujets, sur les projets, soit on trouve des équipes qui vont nous aider à les gérer. Donc voilà à peu près les différentes missions au quotidien chez Native.
D'accord, tu dois être bien occupé avec tout ça.
Ça va, on s'ennuie pas.
Donc comme tu viens de nous le dire, tu accompagnes les marques à se développer. Donc nous, on va parler plus de DNVB aujourd'hui parce que c'est un peu le thème de notre podcast. C'est un terme qui revient très régulièrement, mais qu'est-ce que c'est au final? Est-ce que tu pourrais définir, selon toi, ce qu'est une DNVB?
Je suis déjà, moi, pas un pro des définitions et des concepts en général, je vais faire de mon mieux. Mais non, je pense que, assez simplement, je pense que ce sont des marques, on va dire B2C, qui sont souvent, au départ, uniquement en ligne et avec une offre assez réduite de produits, voire même un seul produit, puis dans une verticale, un secteur assez précis, quoi. Chez nous, chez Native, on parle plus volontiers, on va dire, de direct-to-consumer marques. Comme ça, c'est plus simple. En fait, c'est juste des marques, mais les DNVB, c'est pareil. C'est des marques qui vendent en direct aux clients, quoi. Et au départ, à travers le online, mais voilà, des marques qui parlent directement aux clients, quoi.
Oui, sans intermédiaire.
Voilà, sans intermédiaire, exactement.
Et comment, du coup, ces marques, donc, comme tu dis, direct to consumer,
exactement, direct to consumer.
Sont-elles actuellement en train de réinventer le commerce ?
Alors, je pense que d'une part, en fait, le succès que certaines d'elles ont montre en fait que dans certains secteurs, il y avait vraiment un besoin de se réinventer et qu'en fait, les gens et les clients ne se retrouvaient pas dans l'offre qui était proposée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même, nous on s'en rend compte tous les jours dans nos business, les gens ils ont envie et besoin d'une transparence totale dans leur achat. Ils veulent plus qu'il y ait une once de triche, ils veulent comprendre ce qu'ils achètent, ils veulent pour certains que leur achat ait un sens. C'est vrai que ces DNVB, elles sont en train de transformer ce marché puisqu'elles prônent, pour certaines en tout cas, vraiment une transparence totale sur les achats. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais elles disent là où elles ne le sont pas. Et puis, comme elles parlent en direct aux clients, bah, elles ont tout le loisir de leur expliquer le pourquoi du comment elles ont créé les produits, de leur expliquer leur démarche, de leur expliquer leur engagement. Et donc ça, c'est vrai que c'est des choses que les clients maintenant sont friands. Voilà, je peux prendre, si vous voulez, un exemple pour éclairer un peu ce propos. Dans un secteur qu'on connaît bien chez Natif, parce que ça fait un paquet de temps qu'on est dedans, qui est le marché du pet food. En fait, ça fait plusieurs années que, si vous voulez, il y a eu pas mal de scandales dans ce marché-là avec, on va dire, des gros industriels qui faisaient des produits qui étaient somme toute moyens, pour ne pas dire certaines fois un peu merdiques, avec des croquettes qui, par exemple, contenaient énormément de céréales à des taux un peu hallucinants qui en devenaient un peu nocifs pour la santé des animaux, avec des protéines animales, on s'en rentrait dans le détail, mais des protéines animales avec des taux hyper faibles, et puis c'était plus des becs et des plumes que du filet de poulet. Et donc les gens s'en sont rendus compte, et aujourd'hui ils se tournent de plus en plus vers de nouvelles formes d'alimentation. Par exemple, une boîte qu'on accompagne avec Native, qui s'appelle Pépette, eux en fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, bah, les gens ils se retrouvent pas forcément dans l'offre qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Rungis, on va cuisiner nous-mêmes les ingrédients et les produits, avec que des produits qui sont destinés à la consommation humaine. On va les transformer dans notre laboratoire, les mixer, les mettre sous vide et les envoyer directement aux clients, chez eux, livrés une à deux fois par mois. Voilà, et en étant super transparent surtout, bah, le résultat est là, le Pépette, ça marche super bien, il y a énormément de gens qui se tournent vers eux parce que, bah voilà, parce qu'ils retrouvent un accompagnement, une transparence sur les modalités de fabrication, une personnalisation en plus parce que Pépette fait attention à donner les bons dosages pour les animaux. Voilà, donc il y a plein d'exemples, hein. Je veux dire Poiscaille par exemple aussi, une autre boîte là pour laquelle moi j'ai juste investi. Bah, eux, ils sont en train de changer en profondeur le marché de la pêche, puisqu'ils sont en train de proposer un système où il y a vraiment une pêche durable, où ils achètent convenablement tout type de poissons, même les poissons que normalement qui ne sont pas trop présentés par les poissonniers à tort, comme par exemple le maquereau qui est un super poisson. Et puis ils ont un service top pour les consommateurs, puisqu'ils livrent du poisson ultra frais en 24 ou 48 heures après être pêché, les livrer chez les gens. Bah, c'est deux ou trois fois plus court que les poissonneries classiques. Donc ça montre qu'ils sont en train de transformer le marché.
Et selon toi, comment un peu évolué ce marché des DNVB ou direct to consumer, comme tu dis, en France ces dernières années, puisque il y a quand même des marques un peu pionnières là-dedans. Donc comment ça a un peu évolué depuis les premières marques jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous retracer un peu dans le temps
ou... Ouais, pour faire. Bon, je suis pas non plus un expert du marché, mais en tout cas nous, ce qu'on voit, c'est que c'est un marché très 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 concurrentiel, plus que jamais, je pense. Où en fait, pour faire simple, bah, on le verra, mais c'est un peu à la portée de tout le monde de créer une marque. En tout cas, si on ne met pas beaucoup de R&D, encore une fois, sur les produits, c'est assez facile et très peu coûteux aujourd'hui de créer des marques. Donc, c'est bien parce que bah, ça facilite les projets entrepreneuriaux. Mais par contre, notamment Facebook, Instagram, Google, toutes ces plateformes-là ont des CPM, donc en gros, pour faire simple, ont des coûts qui ont doublé, triplé, quadruplé ces dernières années. Du coup, ça devient quand même beaucoup plus dur de créer une grosse marque, on va dire, direct au consumer, en France, en Europe et dans le monde, je pense, en général, aujourd'hui qu'avant. Donc, en fait, pour faire simple, pour faire un peu caricatural, je pense que hier, les marques, les D2C 1.0, quoi, qu'on pourrait appeler les marques un peu d'hier, elles avaient en gros souvent un ou très peu de produits. Elles avaient souvent, elles étaient monodépendantes en gros de canaux d'acquisition comme Google ou Facebook sur lesquels elles advertisaient énormément et elles trouvaient de la rentabilité on va dire, relativement facilement, puisque Facebook et Google n'étaient pas chers. Et puis, elles avaient des produits, il n'y avait pas beaucoup de barrières à l'entrée, quoi. Elles allaient sourcer des produits sur étagère. Je peux prendre une marque que je connais bien et que je respecte beaucoup, qui s'appelle Hawkers, qui vend toujours des super lunettes de soleil. Bon, c'est des gens qui, il y a quelques années, sont allés en Chine, ont acheté des lunettes, ont mis un petit design dessus sympa, et ils ont fait comme ça des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que Facebook, Instagram leur permettaient de faire des ventes, on va dire, à bas coût. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce genre de business ne pourrait plus se développer comme ça l'a été avant, et qu'on va dire que les D2C 2.0, pour nous en tout cas, celles qui réussiront, ce sont plutôt, au lieu d'avoir un seul produit, des gens qui vont être centrés sur les clients, qui vont vraiment comprendre sur un marché spécifique, un segment spécifique, le besoin des clients. Et donc, ça va être avec plusieurs services et plusieurs produits qu'elles vont pouvoir répondre à ce besoin. On pense qu'il y a une vraie nécessité de sortir de la dépendance d'Instagram et de Facebook et de Google. Donc, il faut vraiment construire une communauté assez importante avec des stratégies de contenu vraiment puissantes pour justement engager cette communauté et avoir un trafic pour partie au moins gratuit et organique. Bon, le marché et le coronavirus, la crise du coronavirus aujourd'hui, elle va rendre quand même le financement beaucoup plus difficile de ces marques, je pense, qui étaient déjà assez boudées, en fait, des investisseurs VC traditionnels, puisque pour le moment, il est encore à démontrer qu'on peut faire des très gros multiples sur les marques. Mais elles étaient déjà un petit peu boudées, je pense qu'elles le seront encore plus demain. Donc, il faut vraiment trouver un modèle où, en fait, la LTV, donc la valeur du client à terme, la marge qu'un client génère dans le temps, c'est vraiment supérieur au coût d'acquisition. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis voilà, en général, et je pense qu'il faut vraiment que les marques et les projets qui réussiront, c'est des projets qui réussissent à mettre des grosses barrières à l'entrée. Ça passe par soit des produits très différenciants, soit du contenu très original, soit des expériences d'achat vraiment différentes de ce que peuvent faire les gens. Parce que si on se contente d'un produit classique et d'expériences d'achat classiques, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, donc tout le monde ne pourra pas malheureusement réussir, quoi.
Ouais, c'était un peu ma question d'après, c'était quels sont les critères que vous prenez en compte, enfin qu'il faut prendre en compte avant de créer et lancer une nouvelle marque, donc comme tu dis, D2C 2.0.
Non, alors nous on a nos critères maison, franchement, que je dévoile sans problème, mais je ne pense pas que ce soit forcément gravé dans le marbre que ce sont les bons critères, et je suis normalement relativement contre tous les conseils, parce que je trouve qu'il faut faire, il faut justement oser et sortir un peu des cadres pour réussir, et beaucoup de projets sont des contre-exemples de ce qu'il fallait faire et qui pourtant ont vachement fonctionné. Mais bon, pour nous, les critères en tout cas chez Native, c'est on va dans un projet que si le marché français pour le moment est vraiment gros, donc ça veut dire plusieurs milliards d'euros. On ne veut pas travailler sur des marchés de niche, parce que nous, on est intéressé par faire du volume, par faire, c'est notre spirit. Donc, on veut que le marché soit gros. On veut qu'il y ait une offre qui soit vraiment intéressante et différenciante sur le marché. Donc, on veut en gros qu'il y ait des trous dans la raquette et que les gros corporates se soient pas encore penchés ou aient pas encore sorti de la bonne offre. Donc, on veut avoir un petit coup d'avance sur eux là-dessus. On fait aussi beaucoup attention au business model. Et ça, c'est quand même un conseil qui est pas forcément tout le temps suivi dans les projets qu'on voit. Il faut qu'il y ait des vrais business models avec des métriques pour montrer que le business peut être rentable, qu'il doit être rentable. Voilà, donc nous, c'est quelque chose d'important, le business model. Et puis après, mais ça, c'est plutôt nous, on veut maîtriser, on va dire, les premiers. Alors, mais c'est un bien grand mot, maîtriser, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, on veut vraiment avoir des idées et des convictions solides sur le fait qu'on puisse atteindre les premiers millions d'euros de chiffre d'affaires. On veut avoir la vision de comment on va les faire, sur quelle plateforme, avec quels outils, avec quelle stratégie de marketing. C'est quelque chose d'important pour nous, parce que y a plein de projets où, par exemple, je pourrais citer la mode. Nous, on n'ira pas dans des projets de mode parce que on ne sait pas comment faire prendre la magie d'une marque de mode. C'est pas dans nos compétences à nous. Donc, on ne veut pas prendre le risque d'aller dans ces marchés-là.
Du coup, c'est plus quoi tes marchés de prédilection, si je puis dire?
Nous, on a aujourd'hui pas mal de convictions sur des marchés de la beauté qu'on connaît bien. On aime beaucoup les métiers aussi de personnalisation parce qu'on pense qu'il y a un vrai sens et pour le coup, les gens, ils peuvent trouver l'ultra-personnalisation, elle ne peut se faire que online puisque offline, par nécessité, on ne peut pas faire de l'ultra-personnalisation. Donc ça, on pense que c'est quelque chose d'intéressant. On est pas mal concentré en ce moment sur le secteur du pet food aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pense qu'il y a vraiment des nouvelles offres à sortir. Que les gens aujourd'hui dans les rayons de supermarché sont un peu perdus, ils ne comprennent pas très bien les offres, tous les paquets disent un peu tout et leur contraire, donc les gens sont un peu perdus, ils ont besoin d'accompagnement, et en plus ils sont assez contents de faire partie d'une communauté en ligne, et il y a vraiment un sens à les accompagner sur les plans de nutrition, sur les plans d'éducation, sur pas mal de sujets. Voilà, et en plus de ça, sur certains modèles, notamment le modèle de chat, de la nourriture pour chat qu'on va lancer, il y a des modèles d'abonnement qui peuvent se faire et qui sont assez intéressantes économiquement. Ce n'est pas, on va dire, ciblé que sur un secteur, c'est juste que ça prend du temps de comprendre vraiment un secteur, et on pense qu'il faut vraiment aller dans le fond des choses si on veut sortir des offres et des marques qui seront successful demain. On ne peut pas lire plein de secteurs à la fois, quoi.
Et dans combien de marques tu as investi? Mais tu nous as un peu parlé en introduction, on va peut-être approfondir ce pan-là.
Ouais, c'est vrai qu'en plus de Native, et surtout là avec, avec mon associé Mathias, c'est vrai que nous, on est bon, d'une part un peu sollicité, et puis nous, on est ravis de pouvoir aider et s'investir dans quelques autres projets, mais de façon plus, on va dire, business angel à notre humble échelle. Mais du coup, moi, je pense avoir investi à peu près dans une dizaine de DMVB, de direct consumer. Voilà, et c'est toujours intéressant parce que c'est un échange. On essaie d'apporter ce qu'on peut, mais les gens nous apportent aussi parce qu'on voit différentes mentalités, différentes façons de travailler. Et donc, je pense que tout ça crée un écosystème assez helpful pour tout le monde. Et donc, on essaie aussi de faire en sorte que les gens se rencontrent. On crée d'ailleurs à l'occasion quelquefois des petites réunions spéciales direct au consumer où chacun peut un peu partager ses problématiques, ses best practices, etc. Et ça fait que, je pense, du bien à l'écosystème français pour lequel je pense qu'on a besoin de voilà, d'échanger pour essayer de faire éclore des belles marques, puisque c'est quand même, il faut le dire, dans l'écosystème français, comparé aux États-Unis, et c'est vrai qu'on suit pas mal de marques là-bas et on a quelques échanges avec des grosses marques là-bas, ils sont tout de suite à une autre échelle et ils peuvent faire, eux, beaucoup de chiffres assez rapidement. En France, c'est quand même plus difficile, et donc voilà, si on peut serrer les coudes pour y arriver, c'est mieux.
Bah, aux États-Unis, surtout, parce qu'en plus tu t'aimes bien parler de la monde de la beauté, il y a Glossier, je pense, qui est une marque.
Ouais, voilà, Glossier, c'est un super succès. Voilà, mais qui s'est créé à une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait difficile de refaire pareil. Et c'est un super succès et c'est effectivement des cartons dans le monde de la beauté.
Ouais. Parmi du coup, la dizaine de marques que tu as accompagnées, quelles sont celles qui t'ont particulièrement marqué et pourquoi? S'il y en a une qui se détache parmi les autres.
Je pense que chaque marque m'impressionne vraiment. Je pense que surtout les fondateurs et toutes les équipes en général, c'est surtout eux qui m'impressionnent parce que je sais, parce que je suis aussi passé par là, quelle énergie, et puis je passe par là tous les jours, quelle énergie, quelle résilience en fait il faut pour se battre tous les jours, pour faire en sorte que sa marque, on va dire, naisse et puis se développe. Voilà, pour en citer quelques-uns, je parlais tout à l'heure de Pépette, je pense qu'ils font un travail formidable, c'est quand même ils sont quand même tous les jours, encore les fondateurs, encore actuellement dans leur laboratoire pour faire eux-mêmes la bouffe pour les chiens et chats, donc c'est quand même une preuve de résilience énorme que de réceptionner des commandes de Rungis à 5h du matin, de mixer tout ça dans ses propres robots alors que c'est deux personnes qui avaient fait des écoles de commerce. Donc voilà, ça montre à quel point ils croient à ce projet-là et à quel point... ils ont envie de le développer, de le faire connaître un maximum de personnes. Après, je sais pas, je pense qu'il y a des boîtes comme Kipli, là, Poiscaï, les petits bidons. Ce sont des boîtes qui m'impressionnent parce que je pense qu'ils ont un vrai modèle de développement qui est assez nouveau, je trouve, qui est vraiment de se dire on peut faire de la croissance, mais une croissance qui est... On peut être ambitieux, on peut vouloir vraiment être là pour faire du business, parce que voilà, on est là pour faire du business, mais avec une vraie préoccupation de faire les choses avec un impact positif sur l'environnement, sur les hommes, sur une croissance, on va dire, respectueuse de la planète. Et ça, je trouve que c'est vraiment louable et que ce n'est pas des mots, parce que je sais, pour suivre ces boîtes-là, que c'est vrai, que ça se traduit vraiment par tout un tas de choses, que ce soit par... comment est-ce qu'en interne les employés travaillent, et puis toutes les actions qui sont faites pour que on ne fasse pas que des choix court terme et de maximisation du chiffre d'affaires, mais aussi que tout ça soit fait dans un cadre sain pour l'environnement et les hommes. Donc je trouve que c'est vraiment ça mérite vraiment le respect.
Parmi les marques que tu as accompagnées, comment tu les as accompagnées justement? Quelles sont tes missions d'accompagnement?
Alors, dans les marques dans lesquelles on investit, on est quand même moins présent, bien sûr, que dans les marques de natives. Mais en fait, bon, ça dépend vraiment de chaque projet. Je pense que d'une part, on fait un peu d'entre-gens, donc ça veut dire qu'on va faire des introductions. Et c'est vrai que maintenant, on commence à avoir une bonne communauté, on va dire, d'experts un peu dans tous les domaines, du directeur artistique jusqu'au vidéaste, voilà, les bons logisticiens. Enfin voilà, on a un réseau un peu d'experts avec qui on a l'habitude de travailler. Donc ça peut faire gagner pas mal de temps dans les projets dans lesquels on investit. Ensuite, on a quand même, on va dire, quelques best practices un peu dans chaque département e-commerce en général, de la stratégie marketing jusqu'au parcours d'achat, dans les opérations. Voilà, on a quand même quelques bons conseils et best practices à donner. En marketing, on a dépensé dans le passé avec Mathias beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, des millions d'euros sur Facebook, Google, etc. Donc, on sait quand même un peu comment réagissent ces plateformes-là et en tout cas, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est quelques conseils qui peuvent permettre d'économiser un petit peu d'argent. Et puis on aime bien aussi intervenir un peu en data et en reporting parce qu'on pense que c'est quand même relativement le nerf de la guerre et ça nécessite voilà, d'avoir quelques connaissances sur certains sujets pour être sûr de bien traquer les choses, de bien traquer tous ces canaux d'acquisition, de bien savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que le test and learn est vraiment important dans la création et dans les premiers steps de création de marque. Et pour ça, il faut avoir des data qui sont fiables et dans lesquelles on a confiance. Donc voilà un peu sur l'accompagnement. Et puis après, les quelques conseils qu'on leur donne, je pense que sur les conseils moyen-long terme, moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est de savoir encore une fois où est sa valeur, où est-ce que sera sa valeur. Qui sera sa valeur unique, qui seront différentes de d'autres projets qui auraient pu être lancés dans le même tempo. Donc c'est vraiment savoir où est-ce qu'on va mettre sa valeur, qu'est-ce qui sera son point différenciant, quoi. Voilà, nous on aime bien sur le moyen long terme de dire un petit exercice en disant, écoutez, si votre CAC, donc si le coût d'acquisition de votre client est multiplié par 2 demain, comment vous faites pour continuer à vivre? Je trouve que c'est un exercice intéressant parce que voilà, sa réponse nécessite en tout cas de se poser des vraies questions de fond. Et de se dire, même si mon business, même si les plateformes d'acquisition sur lesquelles j'advertise augmentent beaucoup mon prix, je serai toujours là parce que voilà, j'ai construit un modèle qui est vraiment sain et qui fera face à des éventuelles fluctuations de prix chez mes plateformes marketing. Voilà, nous, autre conseil, on pense que c'est quand même intéressant de viser la rentabilité rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin forcément de lever d'argent, mais qu'il faut être rentable sur son core business parce que sinon, pour nous, ça ne fait pas de sens. Et puis après, s'entourer de personnes bienveillantes, que ce soit des investisseurs, les employés, etc. Et ne surtout pas faire, si on a le moindre doute là-dessus, parce que avoir des personnes pas bienveillantes dans son capital ou dans ses entourages, c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Et puis sur le court terme, nous, ce sur quoi on donne le plus de conseils, c'est juste de dire aux gens, essayez de prioriser bien votre temps et bien vos dépenses, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, qu'on peut vite se défocus, donc il faut rester focus sur les choses les plus essentielles, et puis faire des tests, et laisser parler les chiffres, puisqu'il n'y a que ça qui, pour nous, est vrai, et qu'on peut au moins, c'est un des avantages des marques, c'est qu'on peut vite tester et se rendre compte de si ça marche ou non. Et donc, il ne faut pas avoir de parti pris, il faut tester, puis ça ne marche pas, changer.
Oui, donc voilà. Un accompagnement assez global quand même.
Oui, voilà, mais assez global. Et puis, quand les gens ont des besoins spécifiques, ils nous appellent et puis on essaie d'échanger. Voilà, moi, je ne suis pas trop pour les gens qui donnent des conseils super importants sur la stratégie et qui peuvent influencer de façon positive, mais aussi assez souvent, je trouve, négative. Et ça, pour moi, il n'y a que l'entrepreneur qui peut porter, qui doit faire ses choix. Et qui doit porter sa barque, quoi. Et c'est le seul à pouvoir montrer dans quelle direction sa barque doit aller, quoi.
Mmh. De la façon dont tu en parles aussi, ça a l'air de quand même un accompagnement assez humain.
Bah oui, je pense que de toute manière, c'est un peu le nerf de la guerre, l'humain. Et c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tous les entrepreneurs, s'il y en a qui nous écoutent, le savent. C'est très dur d'avoir des business, que ce soit dans le secteur des marques ou dans d'autres secteurs, tech, etc. Et donc, si au moins les gens avec qui on s'entoure ne sont pas bienveillants les uns envers les autres, et même moi, j'ai des investisseurs, donc je sais, et j'ai pris que des investisseurs qui sont bienveillants, et c'est vraiment agréable de se sentir en confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se challenger, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des responsabilités, le poids des responsabilités, parce que c'est normal qu'on l'ait, mais en tout cas, que les choses soient faites dans un cadre bienveillant, quoi.
Oui, bien d'accord avec toi. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont des idées de projets dans la tête, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Bon, je sais que tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas forcément donneur de conseils, mais quand même des petits conseils pour se lancer en tant que marque nouvelle.
Non, c'est vrai. Les conseils, là où je redoute, c'est que c'est vrai que même moi, je vois pas mal de gens, des fonds, enfin bref, des gens qui disent beaucoup de conseils. Et je pense qu'effectivement, il y a un moment, il faut avoir l'audace de croire à ses choix et de les essayer, surtout, et d'essayer. Je pense que c'est la seule chose qui parle vraiment. Je pense juste qu'il faut se lancer, que si on a quand même conscience que ça va être dur. Alors, je pense qu'un petit peu il faut pas avoir trop conscience de ça. Et quelquefois, c'est bien d'être un peu tête brûlée, parce que voilà, les problèmes, rien n'est irrésolvable. Et puis, on les résout quand on y fait face, et voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même prenant. On utilise souvent l'expression, c'est un marathon sprinté. Je pense que c'est quand même assez vrai. Voilà, je pense qu'il faut quand même bien réfléchir sur son offre, son business model, et sa vraie valeur ajoutée qu'on aura par la valeur ajoutée de la marque qu'on veut créer. Je pense que c'est vraiment important, parce que c'est des questions que voilà, une fois qu'on a lancé beaucoup de choses, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, il faut au maximum penser les choses. Et puis beaucoup de gens disent tout est dans l'exécution. Je trouve que c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'exécution. Ou en tout cas, si on exécute mal, ça marchera pas. Ça, je le pense. Mais je pense quand même que l'idée, il y a quand même des vraies bonnes idées. Et il y a des projets qui rencontrent un succès parce que les idées sont bonnes. Donc je pense quand même que voilà, il y a pas, c'est pas vrai que de dire que tout est dans l'exécution. Voilà, il faut le faire pour les bonnes raisons. Je pense que ça, c'est important. Les gens qui font ça que pour l'argent, à mon avis, c'est condamné à l'échec, parce que déjà, souvent, ça se ressent même dans les marques en elles-mêmes. Et puis surtout, on ne tient pas le coup, parce qu'une marque, c'est fait de haut et de bas. Toutes les marques, même les plus successful, sont faites aussi de moments très difficiles. Et donc, si on fait ça pour que de l'argent, je pense qu'on n'a pas la résilience nécessaire. Et puis voilà, je pense qu'après, il faut aussi relativiser et se dire que tout ça, apprécier, on va dire, au jour le jour. Parce que sinon, c'est juste trop dur, quoi, si on se prend trop la tête. Donc, il faut le faire dans un esprit de pouvoir apprécier le chemin, sans faire de la philosophie trop poussée.
Non, c'était une belle phrase de conclusion de conseil, entre guillemets. Donc, comme tu nous disais, un peu les nouvelles marques comme ça, DNVB, elles naissent tout d'abord sur Internet. Et toi, tu es ambassadeur Shopify. Donc, pourquoi avoir choisi de travailler, d'être ambassadeur de Shopify et conseiller du coup cette plateforme aux marques que tu accompagnes?
Alors, nous, on a vraiment beaucoup travaillé avec Shopify, on travaille encore beaucoup avec eux. Je pense que c'est assez facile à comprendre quand on utilise la plateforme. C'est une plateforme super simple d'utilisation. C'est une plateforme qui est très rapide à prendre en main. Une plateforme avec laquelle on peut vraiment créer un site super performant, très mobile friendly, très rapidement. Voilà, c'est un site qui a des performances vraiment vraiment intéressantes. Avec, il n'y a jamais de bug. Alors, on peut pas toucher au tunnel d'achat, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a jamais de bug. Il y a des performances dans les taux d'acceptation des cartes et des paiements qui sont très importantes. Il y a plein plein de modules, comme ils ont tout développé leur plateforme sous forme d'API. Il y a plein de modules qui se sont greffés, qui sont super intéressants. Donc, en fait, si demain on veut créer un flow de panier abandonné, on peut greffer en deux clics un super outil de CRM. On peut brancher, la plupart des logisticiens maintenant en France, ils sont branchés directement, ils ont des connecteurs tout faits avec Shopify. Voilà, donc il y a plein de modules qui sont super faciles à mettre en place et qui permettent d'augmenter les ventes, d'augmenter le panier moyen, de faire des reportings super facilement. Voilà, et dès qu'on a besoin, on va dire, de développer des choses, il y a plein de ressources faciles et pas chères. Parce qu'il y a des freelanceurs dans le monde entier qui travaillent sur cette plateforme-là, qu'elle est très bien codée, donc les API sont très claires. Donc franchement, en tout cas pour les premiers temps, s'il n'y a pas besoin de dev très 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 spécifique, nous on ne réfléchit pas, on va sur Shopify, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de frais techniques, et ça marche super bien. Donc franchement, on le recommande à tout le monde.
Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une problématique qu'une marque a rencontrée et sur laquelle tu as pu l'accompagner via Shopify?
Ouais, tous les jours, nous on bosse sur Shopify, par exemple sur le projet Veto dont je vous parlais tout à l'heure. Le projet de complément alimentaire pour chiens. Par exemple, là récemment, ce qu'on voulait faire, c'est comme on vend des compléments, donc les gens peuvent les utiliser, on va dire, enfin, les utilisent tous les jours et les mettre sur la gamelle et sur la nourriture de leurs animaux. On voulait faire des packs, donc on a développé super facilement, enfin voilà, assez facilement, un petit module sur nos fiches produits qui permettent aux gens d'avoir des réductions s'ils achètent plusieurs pots d'un coup. Et on voulait en plus, et c'est là un peu la difficulté, combiner avec le fait que les gens pouvaient s'abonner et pouvaient recevoir avec des prix encore plus dégressifs des pots tous les mois. Et donc ça, Shopify, c'est super. Il y a par exemple une app qui s'appelle Recharge qui nous a permis en quelques clics de permettre justement à des gens de s'abonner, d'avoir un espace super bien fait qui leur permette d'arrêter les livraisons, de les décaler, etc. Et ça, c'est vrai que sans citer les autres technologies, et je respecte toutes les technos sur le marché, bien entendu, mais il n'y a aucune techno qui permette aussi facilement de faire tout ce genre de choses avec des performances derrière qui sont top, quoi. Donc voilà un exemple.
Ouais, c'est vrai que les retours qu'on a de Shopify, c'est quand même la facilité d'utilisation et que c'est super user-friendly et que même si on n'a pas forcément les connaissances nécessaires, on peut tout à fait s'en sortir facilement. Quoi. Et puis, on peut facilement agrémenter son site, comme tu disais, des applications, etc.
Complètement.
Et est-ce qu'également, tu as des exemples de marques avec lesquelles tu as pu travailler sur Shopify et nous partager un peu la success story ou le déroulé, comment tu les as accompagnées
Oui, par exemple, on a une marque qu'on a accompagnée récemment qui s'appelle Les Petits Bidons, donc une marque dans laquelle on a investi avec Mathias, qui est une super marque, qui fait de la lessive écologique. Et Les Petits Bidons, ils étaient sur une techno qui était assez compliqué à gérer pour eux, avec chaque changement était pour eux assez long à faire, était assez coûteux, et du coup ils ont décidé de passer sur Shopify, et là ils ont refait un site tout propre avec encore une fois l'app dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Recharge, avec un funnel d'achat bien customisé, et là ils ont un super site qui performe même mieux et qui transforme beaucoup mieux que celui d'avant, et avec lequel ils ont du coup une full access pour faire des changements et que toute l'équipe, toutes les différentes personnes de l'équipe puissent travailler de façon vraiment facile. Donc c'est une preuve que Shopify est vraiment performant dans ces sujets.
Oui, voilà, c'est ça, tu parlais que toute l'équipe peut travailler dessus, c'est ça qui est bien aussi avec Shopify. Que tout le monde peut être investi dans le projet du site et pas sans avoir les connaissances de dev.
Exactement.
Ok, alors moi j'ai fait le tour de mes questions, je ne sais pas si tu avais un mot à ajouter, je te laisse le mot de la fin.
Non, j'étais ravi d'échanger avec toi, j'étais ravi de parler un petit peu de notre humble travail chez Native, et je pense qu'effectivement, il y a plein de place pour créer de belles marques dans le futur. J'espère que la crise du coronavirus ne va pas déchauffer certains de se lancer, je pense qu'il y a toujours de la place, et je pense que les gens vont quand même continuer à consommer, et voilà, il y a plein de belles histoires à écrire, il faut se lancer, et même sur le point de vue personnel, je pense que ça apprend plein de choses de gérer une boîte, et les responsabilités qui vont avec permettent aux gens de grandir, donc les projets sont intéressants.
Bon si vous avez un projet, n'hésitez pas à contacter Tanguy.
Voilà.
Merci beaucoup en tous les cas pour le temps que tu nous as accordé. C'était bien intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut parfois être un peu vague et je pense que là, tu nous l'as bien expliqué.
Merci Audrey, merci beaucoup.
Merci à toi, au revoir.
Salut Audrey, ciao.
Je profite de ce podcast pour vous présenter le tout nouveau projet développé chez e-commerce Nation, notre formation au e-commerce 100% en ligne. Donc, si vous souhaitez vous lancer en e-commerce ou si vous cherchez à en apprendre plus et que vous cherchez à vous former, vous pouvez retrouver cette formation sur e-commerce-nation.academy. Elle se compose notamment de 30 heures de modules vidéo et d'accompagnement personnalisé avec des coachs experts. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner à ce propos si vous êtes intéressé. Et je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast.
J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. A très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.